6h36.
Chapitre 100. Bras et jambes. Le Pequod de Nantucket rencontre le Samuel Enderby de Londres.
Ohé, du navire, as-tu vu le cachalot blanc ? C'est ainsi qu'une fois encore, à Cab, ailé un navire portant les couleurs anglaises qui nous croisait sur notre arrière. Son porte-voix à la bouche, le vieil homme se tenait dressé dans la baleinière de hanches, suspendu à son bossoir. La jambe d'ivoire était pleinement exposée au regard du capitaine, étranger, négligemment incliné à la proue de son propre canon. C'était un bel homme de forte carrure, d'une soixantaine d'années, au teint basané, à la mine avenante. Il était venu d'un ample caban de drap pilote bleu qui tombait en feston autour de sa personne et dont une manche vide flottait derrière lui comme la manche brodée d'un surtout de hussard. « As-tu vu le cachalot blanc ? Et toi, vois-tu bien ceci ?» Ce disant, il dégagea son bras de sous les plis qui le dissimulaient et leva en l'air un membre blanc en os de cachalot qui se terminait par une tête de bois pareille à un maillet. « Armez mon canot !» cria Cab impétueusement, en matant les avirons posés près de lui. « Pars à mettre la mer !» En moins d'une minute, sans qu'il eût à quitter sa petite embarcation, Cab et ses hommes furent déposés sur l'eau. Peu après, ils se trouvaient contre le flanc de l'étranger. Mais une curieuse difficulté survint. Dans l'excitation du moment, Cab avait oublié que, depuis la perte de sa jambe, il n'avait foulé d'autre pont de navire que le sien, et ce, grâce à un ingénieux et très commode appareillage mécanique, particulier au Pequod, mais qu'il eût été impossible d'installer sans délai sur tout autre bâtiment. Or, c'est une chose formalisée, sauf pour ceux qui, comme les baleiniers, pratiquent l'exercice presque à chaque heure de leur vie de grimper sur un navire depuis une baleinière en pleine mer, car les lames puissantes soulèvent le canot jusqu'au pavois pour le faire aussitôt retomber à mi-chemin de la contrequille. De sorte que privé d'une jambe, et le navire étranger ne disposant évidemment pas de la précieuse invention, Cab se trouvait ignominieusement réduit à l'état de terrien maladroit et jeter des regards impuissants vers les hauteurs incertaines et mouvantes qu'il ne pouvait espérer atteindre. On a peut-être déjà mentionné que chaque petite difficulté qu'il subissait et qui résultait, d'une manière ou d'une autre, de son terrible accident, suscitait invariablement chez Cab irritation ou exaspération. Dans la situation présente, son agacement était avivé par la vue de deux officiers du navire étranger, qui, penché sur le plat-bord, près des taquets d'échelle cloués sur la muraille, agitait à son intention une paire de tire-veilles ornées avec goût, sans avoir compris sur le champ, semblait-il, qu'un unijambiste pût être affligé d'une trop grave infirmité pour utiliser leur rampe marine. Mais l'embarras ne dura qu'un instant. Le capitaine étranger, ayant d'un coup d'œil jugé de quoi il retournait, s'écria « Je vois ce que c'est !» « Asseyez-vous là-bas, vite, mes garçons, amenez le palan de dépassement. » Par chance, ils avaient eu une baleine à flanc un jour ou deux plus tôt. Les palans étaient encore en place et l'énorme crochet à l'art, propre et sec à présent, toujours suspendu à leur extrémité. Il fut rapidement descendu jusqu'à Cab, qui, comprenant aussitôt la manœuvre, glissa sa cuisse solitaire dans l'arc du crochet comme il se fût assis sur le bras d'une ancre ou dans la fourche d'un pommier. Lança son ordre, se cramponna, mais aida également à hisser son propre poids en allant des deux mains la manœuvre courante de la poulie. Peu après, il était soigneusement amené au-dessus du pont, on le déposa bientôt avec douceur sur le chapeau du cabestan. Son bras d'ivoire tendu avec cordialité en signe de bienvenue, l'autre capitaine s'avança et Cab, levant sa jambe d'ivoire pour la croiser avec le bras d'ivoire, on eût dit deux espadons engageant leurs épées, s'écria avec ses façons de vieux morse. « Oui, oui, mon brave, serrons-nous la pince, croisons nos os, un bras et une jambe, un bras qui jamais ne pliera, vois-tu, et une jambe qui jamais ne fuira. » Où As-tu vu le cachalot blanc ? Et qu'en était-ce ? Le cachalot blanc, répondit l'Anglais en pointant l'ivoire de son bras vers l'est et en coulant un regard triste dans cette direction, comme il l'eût fait avec un télescope, c'est là-bas que je l'ai vu, sur la ligne, la saison passée. Et il a emporté ce bras, n'est-ce pas ? Demanda Acab qui, ayant pris appui sur l'épaule de l'Anglais, se laissa glisser au bas du cabestan. Oui, du moins, c'est lui qui en a été la cause. Et cette jambe aussi ? Défile-moi ton loch, dit Acab. Que s'est-il passé ? C'était la première fois de ma vie que je croisais sur la ligne, commença l'Anglais. J'ignorais tout du cachalot blanc à cette époque. Un jour, nous mettons à la mer pour une gamme de 4 ou 5 cachalots et ma pirogue amarre l'un d'eux. Un vrai cheval de cirque. Il tourne et tourne en rond comme des ailes d'un moulin, de sorte que mes hommes, pour conserver l'assiette du canot, doivent tout poser. Ils doivent tous poser leur cul sur le plat-bord opposé. Et soudain, du fond de l'océan, brèche un gros cachalot. Il a la tête et le front d'une blancheur de lait et tout couvert de pattes, d'oies et de rides. « c'était lui !» s'exclama Acab, libérant un souffle jusqu'alors retenu. Il y avait des harpons plantés près de sa nageoire de tribord. « Oui, oui, ce sont les miens, ce sont mes fers !» exulta Acab. « Continue !»« Si seulement tu m'en donnes l'occasion !» répartit l'Anglais avec bonne humeur. « Eh bien, cet ancêtre bossu, à tête blanche, se précipite dans la gamme, tout écumant, et commence à mordre furieusement ma ligne de harpons. « Oui, je vois. Il voulait la couper, libérer le poisson amarré. C'est un de ces vieux trucs, je le connais. » Je ne sais pas ce qu'il en était exactement, continua le commandant Manchot. Mais comme il mordillait la ligne, elle se prit dans sa mâchoire. Enfin, elle s'entortilla là, mais à ce moment-là, nous l'ignorons. De sorte que plus tard, quand nous allons dessus, nous nous retrouvons d'un bond en plein sur sa bosse à lui, au lieu de l'autre, qui s'enfuit au vent en battant de la queue. Voyant ce qui se passait et à quel magnifique animal nous avions affaire, le plus noble, monsieur, le plus gros que j'ai jamais vu. Je résolus de l'attraper malgré cette fureur bouillonnante qui semblait être la sienne. Jugeant que l'arrimage de fortune allait se détacher ou que la dent à laquelle la ligne était enroulée allait être arrachée, car mes hommes sont de vrais démons quand il s'agit de haler sur une ligne. « Voyant tout cela, dis-je, je sautai dans la baleinière de mon second, Monsieur Duhaut-Dumont, ici présent. À propos, capitaine Duhaut-Dumont, le capitaine Duhaut-Dumont, qui était alors à bord, qui était alors bord à bord avec la mienne, saisit le premier harpon et l'envoyait à ce vénérable aïeul. Mais seigneur, écoutez, monsieur, par mon âme, l'instant suivant, en moins de rien, j'étais aussi aveugle qu'une chauve-souris, privée de mes deux yeux, réduit à néant, noyée dans un brouillard noir. Je ne distinguais vaguement que la queue du cachalot dressée sur l'eau, droite comme un clocher de marbre. Inutile alors de songer à nager acculé. Mais, comme je tâtonnais en plein midi, sous les feux d'un soleil aveuglant, à la recherche du second fer afin de le jeter par-dessus bord, à ce moment, dis-je, la queue s'abat, s'écroule comme une tour de limaces secouée par un tremblement de terre, sectionnant ma baleinière en deux, pulvérisant chacune des moitiés, et la queue, la première, la bosse blanche s'en vient à reculons vers l'épave, comme s'il n'y avait là que des copeaux. Tous tentent de s'écarter. Pour échapper à ces terribles coups de battoir, je saisis le manche de mon harpon, planté dans sa chair, et m'y cramponne un moment comme un remora. Mais une lame déferlante m'en arrache et à cet instant, l'animal se précipite en avant et sonde à la vitesse de l'éclair et les barbes de ce maudit second fer, emportés à mes côtés, m'attrapèrent ici. Il plaqua sa main juste dessus son épaule. Oui, ici précisément, et m'entraînant dans les flammes de l'enfer, pensais-je, quand soudain, Dieu soit loué, les pointes me labourèrent les chairs tout le long du bras et ressortirent près du poignet et je remontai à la surface. Ce gentleman que voici nous raconta le reste. À propos, capitaine, le docteur Labonde, chirurgien du bord. Labonde, mon ami, le capitaine. Et maintenant, Labonde, mon garçon, racontez-nous votre partie de l'histoire. L'homme de l'art, ainsi introduit de manière si familière, se tenait debout près d'eux depuis le début de l'entretien, sans que rien de remarquable dans son apparence ne trahît la distinction de son rang à bord. Il avait le visage étonnamment rond, mais la mine grave, et portait une veste ou chemise de laine d'un bleu fané et des pantalons rapiécés. Jusqu'à cet instant, il avait partagé son attention entre un épissoir qu'il tenait dans une main et une boîte de pilules dans l'autre, lançant de temps à autre un regard critique sur les membres d'ivoire des deux capitaines estropiés. Mais, quand son supérieur le présenta à Akab, il s'inclina courtoisement et se mit en devoir d'obéir sur le champ aux ordres de son capitaine. C'est une fort mauvaise blessure, commença le chirurgien baleinier. Et, sur mon conseil, le capitaine Florissant mit le cap de notre bon vieux Samy. Le Samuel Enderby, c'est le nom de mon navire, interrompit le capitaine Manchot à l'attention d'Akab. Continuez, mon garçon. Mit le cap au nord-ouest afin d'échapper à la fournaise de la ligne, mais rien n'y fit. Malgré tous mes efforts, je le veillais la nuit, j'étais d'une grande sévérité en matière de régime. D'une grande sévérité, oui, intervient le patient, dont la voix soudain s'altéra. Il sifflait des rhums chauds tous les soirs avec moi, jusqu'à n'y voir plus assez clair pour refaire mes pansements. Et vers 3 heures du matin, complètement noir, il m'envoyait au lit. Aux étoiles des cieux, il me veillait, pour sûr, et m'imposait un régime fort sévère. Oh oui, le docteur Labonde est un garde malade infatigable et un hygiéniste sévère, n'est-ce pas ? Labonde, coquin, qu'attends-tu pour éclater de rire ? Tu sais que tu es une parfaite crapule. Mais allez de l'avant, mon garçon, je préférerais être tué par vous que sauvé par n'importe qui d'autre. Mon capitaine, comme vous l'avez déjà dû le remarquer, très honoré, monsieur. Dit Labonde avec le même air de Sainte-Nitouche en inclinant légèrement la tête vers Akab. Mon capitaine peut à l'occasion se montrer facétieux. Il nous régale de quantités de fines plaisanteries de ce genre. Mais il faut quand même que je vous avoue, en passant, comme disent les Français, que je suis moi, Jacques Labonde, ancien membre du révérend clergé. Totalement et strictement abstinent. Je ne bois pas. D'eau, s'écria le capitaine, il n'en boit jamais. Elle lui donne des attaques. L'eau fraîche provoque chez lui des crises d'hydrophobie. Mais continuez, poursuivez cette histoire de bras. Oui, cela vaut mieux, dit le chirurgien froidement. Je faisais observer, monsieur, au moment de l'interruption facétieuse du capitaine Florissant, qu'en dépit d'efforts acharnés, la blessure ne cessait d'empirer. À la vérité, monsieur, c'était la plus vilaine plaie ouverte que chirurgien eût jamais vue. Plus de 2 pieds et quelques pouces de long, je l'ai mesurée avec la ligne de sonde, bref, elle devenait noire. Je savais ce que cela voulait dire et j'amputais. Mais je ne suis pour rien dans le montage de ce bras d'ivoire, cette chose est contraire à toutes les règles, il la montra avec son épissoir. C'est le travail du capitaine et non le mien. Il a commandé au charpentier de le confectionner et quant à ce maillet qu'il a fait mettre au bout, c'est, je suppose, pour enfoncer un crâne comme il a déjà essayé de le faire avec moi. Il lui prend parfois des colères diaboliques. Voyez-vous ce trou, capitaine ? Il ôta son chapeau, écarta ses cheveux et exhiba une dépression en forme de soucoupe sur son crâne, mais qui ne portait pas la moindre trace de cicatrice, ni le plus petit signe permettant de penser qu'il s'agissait d'une blessure. Eh bien là, le capitaine vous dira comment. Il se fait qu'elle se trouve là, il le sait bien. Non, je n'en sais rien, dit le capitaine, mais sa mère le savait. Il est né avec ce creux. Oh Labonde, incorrigible fripon. A-t-on jamais vu un autre Labonde sur toute l'étendue du monde des eaux ? Labonde, canaille, quand vous mourrez, il faudra qu'on vous mette dans la saumure, fripouille, afin de vous conserver pour les siècles futurs. Qu'est devenu le cachalot blanc ? S'exclama Akab, qui n'avait pas assisté sans impatience à cette petite scène entre les deux Anglais. Ah, répondit le capitaine Manchot. Ah oui, eh bien, après qu'il eut sondé, nous le revîmes pas, de quelque temps. En fait, comme je vous l'ai laissé entendre, je ne savais pas alors quel était le cachalot qui m'avait joué ce tour. C'est seulement plus tard, alors que je revenais sur la ligne, que nous avons entendu parler de Moby Dick, comme certains le nomment, et que j'ai compris que c'était lui. As-tu croisé son sillage à nouveau ? 2 fois. Sans pouvoir le harponner ? Je n'ai pas voulu essayer. Un membre perdu me suffit bien. Que ferais-je sans cet autre bras ? D'ailleurs, j'ai tendance à penser que Moby Dick avale plutôt qu'il ne mord. Dans ce cas, interrompit Labonde, appâtez-le avec votre bras gauche pour récupérer le droit. Savez-vous, messieurs ? Et il s'inclina avec gravité et une précision de géomètre devant l'un et l'autre capitaine alternativement. Savez-vous bien que les organes digestifs du cachalot ont été si mystérieusement conçus par la divine providence qu'il lui est tout à fait impossible de digérer complètement, fût-ce un bras d'homme? L'animal lui-même le sait bien. Aussi, ce que vous prenez pour la malice du cachalot blanc n'est que maladresse. Jamais il n'a eu la moindre intention d'avaler un seul membre. Il ne songe qu'à aspirer la terreur par des simulacres. Il ressemble parfois à ce vieux jongleur de Ceylan, un de mes patients jadis, qui se faisait passer pour un avaleur de couteaux, et un beau jour, en avalant un pour de bon. Il le conserva dans l'estomac pendant 12 mois, ou davantage. Je lui prescrivis alors un émétique, ce qui lui permit de le vomir sous forme de petits clous de tapissier. Voyez-vous, il lui avait été impossible de digérer ce couteau et de le faire assimiler par son organisme. Oui, capitaine Florissant, si vous ne tardez pas trop et que vous êtes disposé à mettre un bras en gage pour avoir en retour le privilège d'offrir à l'autre des obsèques décentes, alors ce bras sera à vous. Donnez seulement une nouvelle chance au cachalot, voilà tout. Non merci, la bonde, dit le capitaine anglais. Je lui abandonne volontiers le bras qu'il a, puisque je n'en peux, mais et que je ne le connaissais pas, alors, mais pas un second. Plus de cachalot blanc pour moi. Je mis une fois à la mer pour le poursuivre et j'en ai tiré toute la satisfaction possible. Je sais bien que le tuer serait un exploit glorieux et qu'il y en a en lui une pleine cale de spermacétie. Mais écoutez-moi, mieux vaut le laisser tranquille. Ce n'est pas votre avis, capitaine ? Demanda-t-il en baissant les yeux sur la jambe d'ivoire. Il vaut mieux, en effet. Mais on n'en continuera pas moins à le chasser. Ce dont il vaut mieux se méfier, cette chose maudite n'est pas la moins attirante. Cet animal est un véritable aimant. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Dans quelle direction allait-il? Dieu bénisse mon âme et flétrisse celle de l'infect démon, s'écria la blonde qui tournait autour d'Akab, l'échine courbée, et reniflait drôlement comme un chien. Le sang de cet homme a porté le thermomètre. Son sang est au point d'ébullition. Son pouls fait trembler ses planches, capitaine. Il tira un bistouri de sa poche et s'approcha du bras d'Akab. « Arrière !» rugit Akab en le projetant contre le bastingage. « Armez la pirogue. Quelle direction as-tu dit ?»« Montée divine !» s'écria le capitaine anglais, auquel la question était adressée. « Que se passe-t-il donc ? Il se dirigeait vers l'est, je crois. Votre capitaine est-il fou » murmura-t-il à Fedala. Mais Fedala, un doigt sur les lèvres, se glissa par-dessus le bastingage pour prendre l'aviron de gouverne de la baleinière et Akab, amenant à lui le crochet à l'art, ordonna au matelot de se tenir prêt à le descendre. L'instant d'après, il se tenait debout, à l'avant de son embarcation, et son équipage de philippins bondissait sur les avirons. Ce fut en vain que le capitaine anglais le héla. Le dos tourné au navire étranger, montrant au sien un visage de silex, Akab demeura droit et ferme à sa place, jusqu'à ce qu'il eût atteint le flanc du Pequod.